Si vous voulez accéder à la transcription complète, créer des fichiers médias et bien plus encore, visitez lingia.com.
Commençons par l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast de français intermédiaire. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui nous concerne tous, absolument tous, chaque nuit, mais que l'on comprend parfois assez mal. C'est un domaine plein de mystères et d'idées reçues.
Ah oui, c'est vrai, on a tellement de questions sur ce qui se passe quand on ferme les yeux.
Exactement. Préparez-vous à plonger avec nous dans le monde fascinant et parfois déroutant de les mythes du sommeil et des rêves. On va vraiment s'amuser.
Ah, un thème passionnant, Claire. Tu sais, l'autre nuit, j'ai eu un rêve complètement fou. J'ai rêvé que je parlais couramment 10 langues, y compris le Klingon. Tu sais, la langue des extraterrestres de Star Trek. J'étais tellement bon. J'étais vraiment déçu de me réveiller et de réaliser que je n'en connaissais pas un mot.
Ah, Hugo, c'est une super histoire. C'est un mythe courant qu'on peut apprendre des langues en dormant, malheureusement. Ce serait tellement pratique, n'est-ce pas?
Ce serait révolutionnaire pour notre podcast.
Absolument. Mais sérieusement, aujourd'hui, on va démystifier quelques-unes de ces croyances populaires sur le sommeil et les rêves. Notre but est de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe réellement quand on dort. Accrochez-vous, ça va être très intéressant et j'espère instructif.
Alors, pour commencer notre exploration, parlons d'un mythe très répandu, un mythe que tout le monde connaît et dont on entend souvent parler. Il faut absolument dormir 8 heures par nuit, surtout quand on est adulte, c'est la règle d'or, n'est-ce pas? Claire, est-ce vraiment une vérité universelle?
Eh bien, c'est un mythe, Hugo. Ou du moins, c'est une généralisation excessive. 8 heures, c'est une moyenne, un chiffre que l'on cite très souvent dans les médias ou les articles de santé. C'est un bon repère pour la plupart des gens, mais ce n'est absolument pas une règle universelle qui s'applique à tout le monde.
Ah bon? Donc ce n'est pas obligatoire pour être en pleine forme? Ça m'intéresse.
Non, ce n'est pas une obligation stricte. Nos besoins en sommeil varient énormément d'une personne à l'autre. Chaque individu est unique et a ses propres besoins. Ses besoins changent aussi selon l'âge. Par exemple, les bébés ont besoin de beaucoup plus de sommeil, parfois jusqu'à 16 heures par jour pour leur développement.
Oui, c'est vrai, on le voit bien avec les nouveau-nés qui dorment presque tout le temps. Et les adolescents alors, eux aussi dorment beaucoup, j'ai l'impression.
Tout à fait. Les adolescents, par exemple, ont souvent besoin de 9 à 10 heures de sommeil par nuit pour fonctionner au mieux. Leur corps et leur cerveau sont en pleine transformation et ont besoin de beaucoup de repos.
Et pour les adultes comme nous, on n'a pas tous besoin de 8 heures alors?
Exactement. C'est là que le mythe est le plus trompeur. Certains adultes peuvent se sentir parfaitement bien et fonctionner très efficacement avec seulement 6 heures de sommeil par nuit. Ce sont des petits dormeurs. D'autres, au contraire, ont besoin de 9 heures, voire plus, pour se sentir vraiment reposés et alertes le lendemain. La génétique, c'est-à-dire nos gènes, joue également un rôle important dans la détermination de nos besoins en sommeil.
Donc, si je comprends bien, la qualité du sommeil est peut-être plus importante que la quantité exacte de 8 heures. Est-ce que c'est ça l'idée principale?
Absolument. C'est une excellente conclusion, Hugo. Il vaut toujours mieux avoir 6 heures de sommeil profond, vraiment réparateur et reposant, qu'une nuit de 8 heures avec de nombreux réveils où l'on n'atteint pas les phases de sommeil profond.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Quand on se réveille souvent, même après une longue nuit, on se sent fatigué.
C'est ça. On parle de cycles de sommeil qui sont essentiels. Ce sont des phases distinctes, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal avec les rêves, qui se répètent plusieurs fois par nuit. C'est le fait de compléter plusieurs de ces cycles complets qui est important pour se sentir vraiment reposé et avoir de l'énergie pour la journée.
Intéressant! Donc, si on se sent bien, en pleine forme, et qu'on est productif après 7 heures de sommeil, par exemple, pas besoin de paniquer ou de se forcer à dormir plus. C'est une très bonne nouvelle!
C'est exactement ça. Écoutez votre corps et ses besoins plutôt que de suivre une règle trop stricte. Super! Passons maintenant à un autre mythe très connu, souvent mis en scène dans les films et les séries. Il ne faut jamais réveiller un somnambule, c'est dangereux pour lui. On entend souvent dire que ça pourrait lui causer un choc. Qu'en penses-tu, Hugo? Tu as déjà entendu ça?
Oh oui, bien sûr, j'ai toujours entendu ça. C'est une idée très ancrée. J'imagine toujours que la personne pourrait avoir une crise cardiaque, être terrifiée ou même devenir folle, complètement désorientée, si on la réveille brusquement de son sommeil profond. C'est une image assez effrayante, n'est-ce pas?
C'est une image commune, mais c'est faux. Le fait de réveiller un somnambule n'est pas du tout dangereux pour sa santé physique ou mentale. Il ne va pas faire une crise cardiaque à cause de ça, c'est une exagération.
Ah bon? C'est une surprise pour moi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on déconseille de le faire? Il doit y avoir une raison, non?
Oui, il y a une raison, mais elle est différente de ce qu'on imagine. Si vous réveillez une personne qui fait du somnambulisme, elle peut être très désorientée, confuse, voire même effrayée ou en colère. Imaginez être réveillé au milieu de la nuit dans une pièce où vous ne savez pas où vous êtes ni ce que vous faites. C'est un peu ça.
Je vois, ça pourrait être perturbant pour la personne. Elle ne comprendrait pas ce qui se passe.
Exactement. Les somnambules sont dans un état de sommeil profond, mais leur cerveau est comme à moitié éveillé. Ils peuvent réaliser des actions complexes, comme se lever, marcher ou même ouvrir des portes, tout en étant encore en train de dormir.
Donc, le vrai danger n'est pas le réveil en lui-même, mais ce qu'il pourrait arriver au somnambule s'il se déplace sans être conscient.
C'est tout à fait ça, tu as bien compris. Le danger n'est pas le fait de le réveiller, mais plutôt que le somnambule puisse se blesser en se déplaçant dans la maison pendant son sommeil. Il pourrait tomber, se heurter à des meubles, descendre des escaliers sans voir ou même sortir de la maison. C'est pour ça qu'il faut être vigilant.
D'accord, c'est beaucoup plus logique. Alors, quelle est la bonne chose à faire si on voit quelqu'un faire du somnambulisme? On doit les laisser faire ou intervenir?
La meilleure approche, si vous en avez l'occasion, est de les guider calmement et très doucement vers leur lit. Parlez-leur doucement. Utilisez des phrases simples et rassurantes, sans les brusquer du tout. L'idée est de les ramener en sécurité, sans provoquer de choc inutile.
Je comprends. Et si on doit vraiment les réveiller, par exemple s'ils sont en grand danger immédiat, on peut le faire, mais avec précaution.
Oui, c'est possible, si c'est absolument nécessaire pour leur sécurité. Mais faites-le doucement, avec patience. Et surtout, préparez-vous à ce qu'ils soient très confus et qu'ils aient besoin de quelques instants pour comprendre où ils sont. Expliquez-leur simplement ce qui s'est passé.
D'accord, donc on ne risque pas de provoquer une catastrophe irréversible en les réveillant, juste de les surprendre un peu. C'est une information très utile à savoir. Je crois que beaucoup de nos auditeurs ne le savaient pas. Très bien, Claire, c'était vraiment instructif. Maintenant, parlons de l'un des aspects les plus mystérieux de la nuit, les rêves. Notre cerveau est tellement actif pendant qu'on dort, c'est incroyable. Un mythe très courant, et même assez séduisant, est que nos rêves prédisent l'avenir. C'est tentant de le croire, non? On aimerait tous avoir un aperçu de ce qui va se passer.
Oui, très tentant, Hugo. Je suis d'accord, Hugo, je suis d'accord. Surtout quand on fait un rêve qui semble très réel ou qui nous marque. On a envie d'y voir un signe. Mais malheureusement, il n'y a aucune preuve scientifique qui montre que les rêves peuvent prédire l'avenir. C'est une croyance populaire, mais pas une réalité.
Ah, dommage! Ça aurait été pratique pour gagner au loto.
Oui, ce serait fantastique. En réalité, nos rêves sont plutôt le reflet de nos pensées, de nos émotions et de nos expériences quotidiennes. Ce sont comme des échos de notre journée, mais traités d'une manière très spéciale.
D'accord. Donc, c'est plus une sorte de nettoyage ou de rangement dans notre cerveau?
Exactement. Pendant que nous dormons, surtout pendant la phase de sommeil paradoxal, appelée aussi sommeil REM, notre cerveau est extrêmement actif. Il utilise ce temps pour traiter les informations que nous avons reçues pendant la journée, pour consolider les souvenirs et pour gérer nos émotions.
Donc, si je rêve que je suis en retard pour un examen, ce n'est pas une prédiction, mais plutôt le reflet de mon stress par rapport à mes études, par exemple.
Précisément. Un rêve peut absolument vous aider à mieux comprendre vos propres peurs, vos désirs profonds, vos inquiétudes ou vos aspirations. Mais il ne va pas vous révéler ce qui va se passer demain ou l'année prochaine. C'est une exploration de notre monde intérieur, pas une fenêtre sur le futur.
C'est très clair. Et qu'en est-il d'un autre mythe sur les rêves, celui qui dit que nous ne rêvons qu'en noir et blanc? J'ai l'impression de rêver en couleur, moi. Mes rêves sont toujours pleins de couleurs vives. Je me souviens très bien des couleurs de mon rêve de Klingon.
Et tu as tout à fait raison, Hugo. La grande majorité des gens rêvent en couleur. C'est une réalité pour la plupart d'entre nous. Le mythe du noir et blanc vient probablement de l'époque où la télévision, les films et les photos étaient en noir et blanc. Les gens de cette époque étaient plus habitués à voir des images monochromes.
Ah, c'est une explication logique. Nos habitudes culturelles influencent nos perceptions.
Absolument. En fait, seule une très petite partie de la population, moins de 10%, dit rêver exclusivement en noir et blanc. Et souvent, ce sont des personnes âgées qui ont passé une grande partie de leur jeunesse à être exposées à des médias monochromatiques. Leur cerveau s'est peut-être habitué à cette absence de couleur dans les images.
C'est rassurant. Mon rêve de Klingon était bien en couleur, alors je suis dans la majorité. C'est une excellente nouvelle.
Voilà, Hugo. C'était une discussion vraiment passionnante. Nous avons passé en revue et démystifié quelques mythes très courants sur le sommeil et les rêves. J'espère que nos auditeurs ont appris de nouvelles choses aujourd'hui.
Oui, c'était fascinant. Faisons un petit récapitulatif rapide pour nos auditeurs. Premièrement, n'oubliez pas que les 8 heures de sommeil sont une moyenne, pas une règle universelle. Vos besoins sont vraiment personnels et varient selon votre âge et votre génétique.
Deuxièmement, concernant le somnambulisme, il n'est pas dangereux de réveiller un somnambule, mais il faut absolument le faire doucement, sans le brusquer, et être prêt à ce qu'il soit désorienté. La vraie préoccupation est qu'il ne se blesse pas en se déplaçant.
Et enfin, pour les rêves, rappelez-vous que les rêves ne prédisent pas du tout l'avenir. Ils sont plutôt un reflet de nos pensées et de nos émotions quotidiennes. Et la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des gens rêvent en couleur, pas en noir et blanc.
On espère vraiment que cet épisode vous a permis de mieux comprendre votre nuit, ce monde incroyable du sommeil et des rêves. Et peut-être même que ces informations vous aideront à améliorer votre propre sommeil. N'oubliez pas que le sommeil est essentiel pour notre bien-être physique et mental.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que vous avez appris de nouveaux mots et de nouvelles expressions en français grâce à cette discussion. Continuez à pratiquer, c'est le plus important.
Et surtout, faites de beaux rêves cette nuit, en couleur bien sûr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast de français intermédiaire.
Au revoir tout le monde, dormez bien.
À bientôt! Visitez langia.com pour accéder à la transcription complète, aux flashcards multimédia et à bien d'autres choses encore.